Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Nous nous intéressons aujourd'hui à notre dernière reine, Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, épouse de Louis-Philippe. Que sait-on de cette femme montée sur le trône en 1830 de façon inattendue et quelque peu tardive ? L'image la plus répandue est celle d'une reine pieuse et bourgeoise, comblée par son bonheur conjugal, finalement irréprochable en tout. Cette vision apparaît simpliste, comme le fait apparaître Florence Vidal dans la biographie qu'elle lui a consacrée, parue aux éditions Pygmalion, dans la collection « Histoire des reines de France ». Florence Vidal est notre invitée dans cette émission. Découvrons avec elle la face cachée de la reine Marie-Amélie, en fait enfermée, pour reprendre son expression, dans un autisme princier aux lourdes conséquences pour la dynastie. Florence Vidal, bonjour.
Bonjour à vous.
Je suis heureuse de vous accueillir au micro de Canal Académie. Comme je viens de le dire, vous êtes l'auteur d'une biographie de la reine Marie-Amélie, mais aussi de nombreux autres ouvrages, dont les biographies d'Elisa et Caroline Bonaparte. Votre domaine de prédilection se rapporte aux relations franco-italiennes. J'ajouterai que vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et maître de conférences à l'ENA.
Certes.
Mais nous concentrons sur Marie-Amélie, finalement assez inaperçue dans le paysage de nos reines de France.
Je pense que effectivement, d'abord, elle n'est pas reine de France.
Oui, des
elle,
Français.
Elle est reine des Français, comme l'a été Marie-Antoinette au cours de sa dernière année de vie. Parce que la France, ça voulait dire autre chose. Et elle aurait pu être reine de France puisqu'elle était fiancée dès l'enfance au dauphin de France, le fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI, qui est mort à 7-8 ans d'une tuberculose osseuse. Donc elle va, curieusement, avec les surprises de l'histoire, se retrouver quand même à la tête de la France.
Alors, à la lecture de votre ouvrage, on s'aperçoit qu'ils sont tous en la... à cette époque-là, plus ou moins cousins. Donc, nous allons revenir sur le parcours de Marie-Amélie. Et alors, on va commencer par qui sont ses parents. Vous venez à l'instant de parler de Marie-Antoinette.
Sa tante.
Sa tante, puisqu'elle est la fille, donc Marie-Amélie, elle est la fille de Marie-Caroline.
Elle est la fille de Marie-Caroline, sœur de Marie-Antoinette et l'une des nombreuses filles d'une famille hyper nombreuse parce qu'on suppose à peu près 17 enfants qui sont nés chez Marie-Thérèse d'Autriche.
Il y en aura à peu près 17 chez Marie-Caroline.
Il y en aura à peu près le même nombre chez Marie-Caroline. C'est-à-dire, on a vraiment des génitrices auxquelles on impose d'être constamment enceintes tant qu'elles peuvent l'être. Et si elles ne le sont pas, ça devient un désastre dynastique, hein, il faut le dire. Mais c'est une vie qui est quand même relativement dure pour ces femmes. Marie-Caroline, comme sa mère d'ailleurs, a une santé de fer. Et même, quand même, à certains moments, elle regimbe, elle voudrait que son mari lui accorde des pauses, mais il n'en est pas question.
Alors, vous parlez d'un couple assez particulier quand même, puisque le père de Marie-Amélie, Ferdinand Ier...
Oui, Ferdinand Ier de Naples, enfin Bourbon de Sicile, et hérite de ce trône à l'âge de 8 ans, mais bien sûr, on va le confier à des régents. Naples est plus ou moins dans la dépendance de l'Espagne à ce moment-là et des Bourbons d'Espagne. Ces régents vont en faire un sportif très frustre. Il est très intelligent, mais il est quasiment inculte. Voilà. Ça, c'est l'idée de ces régents et précepteurs, de lui ôter du pouvoir en lui ôtant des possibilités intellectuelles qu'il aurait peut-être pu avoir.
Tout le contraire de son épouse.
Alors, lui, donc, il traîne avec les marins, il adore la chasse, il parle le napolitain qui n'est pas l'italien, et son épouse a été formée par sa mère Marie-Thérèse pour être une princesse on ne peut plus raffinée. Elle joue du clavecin, elle lit les grands auteurs du moment, elle dessine, elle danse, enfin bon, c'est tout à fait le contraire. Et elle se trouve unie à un personnage qui n'est pas très ragoûtant, disons-le.
Alors pour compenser, elle décide de s'investir dans son rôle de reine.
Alors, elle, oui, parce que sa mère a prévu que si elle avait un fils, elle pouvait faire partie du Conseil d'État de Naples et prendre des décisions, ou tout au moins orienter la politique. Et comme elle a une tête politique, hein, sa mère l'a formée et elle a aperçu ce talent, eh bien Marie-Caroline va prendre une forme de pouvoir que d'ailleurs son époux délaisse avec délectation, puisqu'il préfère aller à la chasse aux faisans, aux sangliers et aller à la pêche au thon. Et peut-être courir le guilledou aussi.
Oui, parce que vous présentez une cour quelque peu dévergondée.
La cour est dévergondée, oui, il n'y a pas de doute. Elle est frivole. Ce n'est pas la cour dont rêvait Marie-Thérèse, hein, ou son fils Joseph puis Léopold, qui sont eux des gens austères, sérieux, qui réfléchissent aux problèmes sociaux. Non, non, non. Mais il faut dire que l'on a un territoire qui est très compliqué. Hein. C'est pratiquement l'Italie du Sud, plus la Sicile. Donc c'est vaste. Il y a Naples dont on dit que c'est une grande tête, et c'est vrai, c'est une ville absolument étonnante, de près d'un million d'habitants à l'époque, avec des intellectuels haut de gamme, des économistes, des juristes, des poètes, enfin bon. Et puis il y a un fond du côté des Calabres, qui est quand même un univers assez rural et frustre.
Alors donc l'enfance de Marie-Amélie va se dérouler dans ce royaume. Elle naît en 1782, nous ne l'avons pas encore dit, elle n'est pas le premier enfant du couple.
Ah non, loin de là, je crois qu'elle est le sixième ou quelque chose comme ça.
Et qu'est-ce qu'on peut retenir de son enfance ?
Eh bien, elle est d'une part la vie évidemment dorée d'une princesse, c'est certain, avec un entourage d'institutrices, de gouvernantes, tout ce qu'on veut. Mais sa mère, pour des raisons que l'on ignore, la trouve colérique, alors qu'elle-même l'est terriblement, et elle la confie à une gouvernante qui va véritablement essayer de la contrôler et la conditionner pour en faire une petite fille très obéissante et pieuse, mais dans le sens le plus étroit du terme. Donc, au départ, parce qu'elle est très intelligente au départ, elle lit très tôt.
Elle est à 2 ans et demi, vous dites.
À 2 ans et demi, elle écrit très tôt. Enfin, elle a une grande curiosité, mais tout cela va être réduit, je crois, par cette gouvernante et les consignes qu'on lui donne.
Oui, vous dites qu'elle ne reçoit pas l'enseignement du questionnement.
Ah non, au contraire, on l'empêche de douter, on l'empêche de questionner.
Et ça aura, d'ailleurs, on va le voir par la suite de...
Eh bien oui, ça va la marquer à jamais, je crois. C'est-à-dire, elle va s'interdire, au fond, de penser véritablement les choses profondes.
Mais alors, l'enfance et l'adolescence de Marie-Amélie sont marquées par cette gouvernante, mais aussi énormément par les événements français.
Il va y avoir toute une série d'événements, c'est sûr, parce que apparemment on vit tranquillement tout un temps à Naples, mais il va y avoir un perturbateur qui est Bonaparte, qui va apparaître à plusieurs reprises dans cette vie et va forcer le couple et la famille et un certain nombre de personnages de la cour à s'exiler vers la Sicile, pendant que s'installera une révolution à Naples. Une révolution qui ne sera pas très bien gérée par Championnet et par MacDonald, qui sont des militaires qui ne savent peut-être pas très bien gouverner. Il y aura une contre-révolution et il y aura des horreurs qui se passeront quand cette contre-révolution va se développer. Et il y a en arrière-plan, il y a Nelson et Madame Hamilton, hein, Lady Hamilton, qui sont là, qui sont des amis du couple, enfin peut-être, mais qui sont aussi d'une cruauté total. Ils participeront à une répression sanguinaire.
Alors, la jeune Marie-Amélie va commencer relativement tôt un journal, d'ailleurs, et on sait beaucoup de choses par ce journal, et entre autres la traversée pour la Sicile.
On sait que ça a été une chose abominable. Il faut dire qu'une tempête affreuse et méditerranéenne brutale s'est levée. Et elle a un de ses frères qui va mourir d'ailleurs pendant la traversée parce que c'est un enfant fragile et qui ne supportera pas cette traversée. Elle concevra une haine de toute navigation durant sa vie entière parce qu'il y en aura quelques-unes et chaque fois, mon Dieu, dans des tourmentes infernales.
Mais quelle est sa vision de la France à ce moment-là ? Parce que tous ces malheurs...
Alors, il y a une haine féroce hein, parce que Marie-Antoinette, donc sœur de sa mère, a été guillotinée. Et Marie-Caroline reçoit, et on peut le concevoir, un choc terrible en apprenant que sa sœur a eu la tête tranchée. D'abord, Louis XVI qui a eu la tête tranchée aussi. Enfin, là, c'est un choc, mais on ne le connaît pas bien. Mais quand il s'agit de Marie-Antoinette, il faut dire que c'est une affaire abominable. Et à ce moment-là, Marie-Caroline est enceinte, elle risque de perdre son enfant, elle le perdra d'ailleurs à la naissance. Et elle a véritablement, comment dirais-je, un traumatisme qui va l'envahir à vie. Presque chaque jour, elle va raconter l'abominable fin de sa sœur Marie-Antoinette. Et Marie-Amélie va entendre ça, et elle va entendre aussi un commentaire. S'ils avaient refusé ce qu'on les obligeait à faire, eh bien, s'ils n'avaient pas cédé aux réformes, eh bien, le couple serait peut-être encore là. Et elle a cru à Varennes, elle a cru qu'il pourrait s'échapper vers l'Autriche. Mais Marie-Amélie va aussi en concevoir l'idée que si on réforme, on risque la guillotine.
Très intéressant pour celle qui deviendra donc reine des Français.
Oui, nous y reviendrons. Oui.
Mais donc de la politique aussi de la mère de Marie-Amélie, donc la politique de Marie-Caroline, la politique matrimoniale occupe une place de premier choix.
Ah oui.
Alors avec ses nombreux enfants.
Alors elle essaye, mais je crois que c'est l'attitude de la plupart des princes régnants ou moins régnants, c'est-à-dire il faut absolument caser ses enfants avec des personnalités de premier plan, si on le peut. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut les accorder selon la religion, selon l'âge, peut-être la santé, mais ça c'est un peu secondaire, parce que ce sont des lignées de cousinage, et puis même il y a parfois des oncles qui épousent leur nièce. Enfin, on est dans un système de consanguinité, mais en fait, ce sont les intérêts politiques qui doivent primer. Et Marie-Caroline, comme d'autres souveraines, voudrait que ses filles deviennent reines, impératrices. D'ailleurs, l'aînée va devenir impératrice d'Autriche, les autres grandes-duchesses, que sais-je.
Une fille infante d'Espagne, ça ne durera pas très longtemps.
Une fille infante d'Espagne, oui, et voilà.
Dans tout ça, quel est le sort qu'elle réserve à Marie-Amélie ?
Elle voudrait la marier. Alors, on cherche sur la liste des princes inoccupés sur le plan matrimonial. Ça veut dire que soit ils sont des célibataires, soit des veufs, mais parfois on refusera parce que le veuf a trop d'enfants et ou ne paraît pas convenable sur le plan des accords politiques. Mais on cherche.
Et on tarde à trouver. D'ailleurs, vous insistez dans votre ouvrage sur le fort sentiment religieux de Marie-Amélie. On se pose la question de savoir pourquoi n'est-elle pas entrée dans les ordres, vu qu'elle ne trouvait pas de candidat.
Oui, mais non. Parce qu'elle, elle est, je dis religieuse, je ne sais pas, religiosité certainement. C'est-à-dire qu'on suit tous les rituels de l'Église catholique. D'ailleurs, Marie-Caroline, sa mère, se pose des questions parce qu'à un moment, il y a un Constantin de Russie qui pourrait être libre, mais il est orthodoxe. Il est chrétien, mais c'est plus compliqué. Mais elle, pour elle, c'est essentiellement obéir aux diktats des papes, qui ne sont pas très libéraux à l'époque. C'est ça la religion, et c'est se rendre à des cérémonies, lire énormément de prières, se retrouver dans des églises ou dans des chapelles. C'est donc une sorte de piété, et puis en plus un peu superstitieuse parce qu'on est à Naples. Voilà, on croit à des quantités de choses. Il y a Saint Janvier qui est par là et dont le sang doit se liquéfier. Mais il y a d'autres saints aussi et saintes que l'on honore par des processions, par des fêtes, etc.
Donc Marie-Amélie est finalement très décidée à se marier.
Totalement.
Elle a une première idylle parce qu'elle part pendant quelque temps à Vienne. Oui,
sa mère espère qu'on va lui trouver là aussi un époux. Mais alors, il y a un grand-duc, un jeune grand-duc, semble-t-il, extrêmement séduisant. À Vienne, à l'époque, on danse beaucoup, il y a énormément de fêtes, même si l'ambiance politique ailleurs est un peu perturbée, même très perturbée. Enfin, on conserve toutes ces possibilités festives. Et là, elle s'éprend, et c'est sans doute réciproque, d'un jeune archiduc Antoine. Mais désastre, le jeune archiduc Antoine, si souriant, avec ses beaux cheveux blonds, est voué à l'église. Et elle a un moment un espoir, en pensant que bon, tout cela pourrait peut-être être arrangé quand même. Mais non, ça a été décidé et il sera évêque après là, allemand, parce qu'on a aussi besoin de sa présence dans cette configuration-là. Donc elle va en souffrir énormément, parce que c'est son premier amour.
Mais alors Marie-Amélie après rentre en Sicile.
Elle revient, oui.
Elle revient en Sicile, toujours sans prétendant.
Pas toujours sans prétendant.
Et donc le temps passe.
Ses sœurs se marient.
ses sœurs se marient, elle se voit bientôt finir vieille fille.
Oui, oui, ça la préoccupe, ça préoccupe sa mère, mais on ne lui trouve pas de mari convenable. Il y en a qui passent par là, il y a même le duc de Berry qui a fait un séjour à Vienne, qui a dit haut et fort que trouver Marie-Amélie trop anguleuse parce qu'elle est un peu maigrichonne, ça colle pas. Et puis de toute façon, le duc de Berry, ça reste un Français hein, aux yeux de Marie-Caroline et de son époux Ferdinand.
Et pourtant, en juin 1808, Louis-Philippe débarque, français lui aussi.
Après un second exil en Sicile.
Voilà.
Bon, nous avons Louis-Philippe d'Orléans, qui, après une vie très chaotique hein, et chaoteuse en même temps, puisqu'il a été prince à la cour de France, puis il s'est retrouvé pris dans le tourbillon de la Révolution. Il a été officier de troupes révolutionnaires, puis ensuite il en est parti. Il s'est retrouvé exilé en Suisse. Il a fait des voyages énormes. Hein. Il a été en Scandinavie, en Amérique. Vraiment, c'est à ce moment-là un grand voyageur. Mais il s'est arrêté en Angleterre, qui l'entretient avec ses frères et d'autres exilés français. Ce n'est pas donc un brillant, si brillant parti. En plus, il est français. Il avait voté la mort de Louis XVI dans des conditions qu'on n'a pas encore bien élucidées, parce qu'on dit qu'il aurait pu s'en abstenir, dans la mesure où il y avait un lien de parenté. Ça s'est passé comme ça. Peut-être l'a-t-on étourdi avec des alcools. Peut-être n'a-t-il pas osé, parce que l'époque était plutôt dure, faire autrement. Enfin bon, il a voté la mort de Louis XVI. Donc c'est le régicide. Et ça lui donne quand même un curriculum qui n'est pas magnifique aux yeux de Marie-Caroline.
Pas le candidat idéal, en effet, pour épouser sa fille. Mais de son côté, Louis-Philippe, lorsqu'il débarque en Sicile, se montre déjà assez déterminé.
Ah, mais il veut se marier.
Il veut se marier et Marie-Amélie remplit
Toutes les conditions.
Les conditions.
Toutes les conditions. Ce n'est pas une grande beauté, hein, il faut le dire. Elle a été décrite plusieurs fois, puis il y a des tableaux, peut-être arrangés un peu, mais donc c'est une grande bringue, si j'ose dire.
Non. Avec de l'allure.
Elle a énormément d'allure. Elle n'a pas de très beaux yeux, ni de très belles dents, ni bon, mais elle a un port, on va le dire, un port de reine et de princesse. Et elle porte très bien la toilette. Donc, elle a de l'éclat dans son genre. Mais Louis-Philippe, il cherche surtout une princesse qui lui donnera des enfants. Il veut des enfants. Il a eu une histoire en Angleterre, mais elle peut pas se conclure parce que c'est trop compliqué. C'est une princesse de la famille royale. Le futur Louis XVIII en exil ne voit pas ça d'un bon œil, la cour d'Angleterre non plus. Donc, il lui faut trouver une princesse. Et là, qu'est-ce qu'il trouve ? Une Bourbon-Sicile. Alors là, bon, il vient à Palerme faire sa cour. Et Marie-Caroline, qui voit quand même un prétendant pour sa fille, qui n'est pas si mal que ça, ce n'est plus tout à fait un jeune homme, mais il est un peu d'embonpoint. Mais enfin, ça, il en aura toujours. Il a surtout une parole d'une aisance. Il a une faconde extraordinaire qu'il gardera toute sa vie et qui parfois agacera ses interlocuteurs parce qu'il les enfume, en quelque sorte, par des mots, une rhétorique. Enfin bon.
Mais il saura d'ailleurs séduire la jeune Marie-Amélie. Enfin,
ah ben, elle est séduite.
Elle est séduite
parce qu'il fait des récits, et d'ailleurs il ne peut être qu'intéressant, de tous ses voyages, de tout ce qu'il a fait. Mais c'est un homme intelligent, attention, il est abusif dans les mots et le langage, il y en a trop. Mais il y a peut-être de quoi séduire une jeune personne, et surtout une jeune personne en attente d'un fiancé.
Donc finalement, le 8 septembre 1809, après maintes péripéties, Marie-Amélie va épouser son Louis-Philippe. Mais je vous propose d'en parler dans quelques instants après une courte pause. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes toujours avec Florence Vidal pour évoquer le destin et la personnalité de la reine Marie-Amélie. Nous avons quitté Marie-Amélie lors de son mariage avec Louis-Philippe. Nous allons passer maintenant à Marie-Amélie, duchesse d'Orléans. puis surtout à la reine de France. Alors commençons en effet par les années du bonheur conjugal, je dirais, enfin même si celui-ci va durer toute la vie maritale de Marie-Amélie.
Oui, parce qu'elle est très éprise de son mari et je crois que c'est réciproque. Ils se conviennent parfaitement. Lui va être, et elle aussi, ils seront d'une fidélité totale. Ils ont les mêmes objectifs, ils veulent fonder une grande famille, ils veulent mener un train de vie princier. Bon, alors après quelques péripéties, parce qu'il y aura Louis XVIII, les 100 jours, une période où ils s'installeront en Angleterre et où ils noueront des liens. Enfin, lui, il a déjà des liens avec la famille royale anglaise, mais elle va en nouer aussi. Bon, il y a déjà des enfants qui sont nés. Alors, c'est une petite famille qui vit en semi-exil. Puis, alors, ils reviennent à Paris.
En 1817.
Oui, et là, un objectif de Louis-Philippe, c'est de reconstruire sa fortune, la fortune des Orléans, qui a été un petit peu dilapidée par le père. Enfin, il y a eu des ventes, il y a eu un peu bizarre, il y a eu... Donc, il va remettre de l'ordre dans l'immobilier, si j'ose dire, et le palais royal qui appartient aux Orléans, et puis alors dans tous les biens patrimoniaux divers et variés. Ils vont acheter le château de Neuilly, puis ils auront ultérieurement, par un autre héritage, le château à eux, en Normandie.
Vous venez de prononcer le mot « héritage ». Les années, Marie-Amélie va s'occuper vers la fin des années 20 de la captation d'un héritage d'ailleurs.
On peut le dire, c'est-à-dire il y a d'abord des héritages, on peut dire légitimes, c'est-à-dire la mère de Louis-Philippe, elle est là sa dot, enfin bon, il y a des choses qui se font dans les règles de l'art juridique. Mais à un certain moment, on découvre que le prince de Condé, un personnage assez important, a une fortune considérable. Il a des châteaux, il a des bois, enfin bon, il est richissime et il n'a pas d'enfant.
Puisque son fils, donc, rappelons-le, le duc d'Enghien
a eu le sort que tout le monde connaît. Et il est mort en laissant, semble-t-il, deux enfants illégitimes, mais qui, pour le prince de Condé, ne comptent pas. Enfin, bien. Marie-Amélie, d'après les historiens, a les yeux fixés sur ce somptueux héritage. Il va y avoir toute une série de manœuvres, et de manœuvres notamment pour circonvenir une certaine Madame de Fauchère, qui est la maîtresse du prince de Condé. Alors, s'il y aura des échanges de lettres, il y aura des rencontres, alors que normalement, une grande princesse comme la duchesse d'Orléans ne devrait pas être amenée à fréquenter cette personne qui, bon, a peut-être commencé dans, on ne sait pas trop, dans des estaminets, parce qu'elle est d'origine anglaise, comme Lady Hamilton. Mais enfin, elle a eu, en tous les cas, un pouvoir sur son amant. Et les Orléans, et surtout Marie-Amélie, n'ont de cesse d'obtenir qu'elle fasse signer au parrain, parce qu'il est le parrain du jeune
Henri.
Il est, eh bien, un testament en sa faveur. Alors, il regimbe, et puis ça va se faire grâce à cette entremise. Enfin, on espère que ça se fasse. Voilà. Ça va finir bizarrement. Oui, parce qu'on va retrouver le prince de Condé pendu à l'espagnolette de sa fenêtre durant une nuit. Et on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Les témoins disent qu'il ne pouvait pas se suicider tel qu'on l'a retrouvé. A-t-il été assassiné, étranglé, puisqu'on le trouve pendu à une sorte de grande mouchoir-cravate? On ne le saura jamais. Mais toujours est-il que son testament ira vers son filleul.
Alors le temps passe assez vite. Nous allons passer vers 1830, le changement de régime. Donc il y a eu la période Louis XVIII. Charles X a succédé à son frère Louis XVIII. Et le parti ultra qui était aux commandes, qui petit à petit va réunir les mécontents.
Il y a énormément de mécontents. Charles X ne sent pas très bien ce qui se passe. Il veut faire preuve d'autorité. Il veut gouverner par ordonnance. Il veut réduire les possibilités d'expression des journalistes. Il y a l'affaire d'Algérie qui commence à pointer son nez. Bon, mais en tous les cas, une majorité de Français s'oppose à son gouvernement et à ses façons de vouloir gouverner. Et il va y avoir peu à peu des gens qui vont prêcher la révolution et qui vont monter des barricades. vers 1830, qui vont protester contre les méthodes du souverain. Et à la suite de ces barricades et des journées heureuses, où il y aura quand même un certain nombre de morts, il y aura des banques, eh bien, Louis-Philippe va prendre le pouvoir dans des conditions un peu troubles, parce que ceux qui le soutiennent au départ imaginent, parce qu'il leur a dit, qu'il y aura une sorte de république, un monde libéral, dont Lafayette écoute et croit que tout cela va se réaliser. Et donc, il va avoir finalement le soutien un peu forcé de Lafayette. Il y aura une espèce de constitution qui sera... Enfin, les gens qui se tournent autour de Lafayette croiront que c'est un engagement. Il y aura une sorte de charte très libérale, mais il n'en sera rien. Et finalement, il y aura des gens qui vont... il y a les royalistes, des soutiens de Charles X aussi, qui ne veulent pas de Louis-Philippe, parce qu'il est un personnage illégitime à leurs yeux. Donc, il va être considéré comme un usurpateur, mais on va arranger les choses par une propagande habile en disant que c'est le peuple souverain qui a voulu qu'il prenne le pouvoir et qu'il s'installe sur le trône. Donc ça va s'arranger, mais dans des conditions un peu troubles.
Alors, quel va être le rôle de Marie-Amélie aux côtés de son époux ?
Alors, Marie-Amélie, qui a donc été toujours parfaite dans ses rôles de personne privée, se retrouve au premier plan et on peut dire première dame. Alors, dans tout ce qui est caritatif, notamment quand il y aura l'épidémie de choléra, une chose affreuse, elle va aller auprès des malades, de même qu'elle a été auprès des blessés des barricades, quelle que soit leur nuance politique. Donc, elle fait la dame d'œuvre, ça c'est sûr. Elle va continuer à vivre un peu comme elle le faisait quand elle était duchesse d'Orléans, c'est-à-dire être une excellente épouse, une excellente mère qui s'occupe de l'éducation de ses enfants, qui cherche à les marier. Mais elle va continuer à être une femme d'une religiosité totale. Elle va faire des aumônes aux malheureux. Elle aura d'ailleurs toute une sorte de bureau où elle distribuera... des vêtements, des petites sommes, avec un contrôle d'ailleurs de ses adjoints. Mais attention, moi j'ai trouvé qu'elle faisait ses libéralités à partir de sa liste civile, ce qui quand même diminue un petit peu, je dirais, la valeur de cette charité. Enfin bon, elle s'occupe à le faire, elle le fait semble-t-il bien. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est que voyant la misère, puisqu'elle a sur son bureau une quantité de preuves de l'état misérable d'une grande part de la société. La société, il y a énormément de misérables, des pauvres. Il y a cette industrie naissante avec des petits-enfants qui travaillent 14 ou plus par jour dans des conditions affreuses. Ça, elle ne le voit jamais. Elle ne le verra jamais.
Vous la dites finalement peu ouverte, en effet, sur son temps et son époque.
Elle ne l'est pas. C'est-à-dire que, alors qu'il y a, je dirais, la contre Marie-Amélie, qui est George Sand, qui, elle, sent tout ce qui se passe, depuis la condition sociale, et qui est une femme politique dans son genre, et une féministe, enfin féministe prudente, mais enfin tout de même, qui voit beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de chrétiens sociaux et de protestants d'ailleurs qui s'insurgent contre la condition de trop de miséreux. Et ils disent d'ailleurs que c'est, parce que je pense qu'ils le ressentent vraiment, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Alors on changera un peu le système éducatif, parce qu'on a besoin de jeunes qui savent lire et écrire. Et donc, il y a des gens qui sentent tout ça. Puis alors, on a le mouvement socialiste. Il est un socialiste qui parfois est lyrique, un petit peu, c'est un socialiste naissant, mais qui va quand même donner ultérieurement naissance aux œuvres de Karl Marx. Il y a la révolte des Canuts, il y a des révoltes à Paris, il y a des attentats contre le roi, enfin pas toujours, il y a des fous aussi qui cherchent à l'éliminer, mais ni lui, mais surtout elle, qui est proche de cette misère, n'aperçoivent qu'il faudrait justement faire des réformes. Mais elle ne peut pas en faire, puisqu'elle a une conviction, c'est que si on fait des réformes, on perd le pouvoir.
De là son autisme princier.
Son autisme princier et son repli sur sa famille et ses stratégies matrimoniales.
Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Nous voyons donc un portrait plus nuancé de cette reine qu'on présentait toujours irréprochable. Elle vivra longtemps.
Elle vivra longtemps, oui, parce qu'elle va disparaître en 1866 en exil, parce qu'il y aura eu une révolution, on le sait, en 1848, qui va chasser le couple du trône. Jamais ils ne comprendront ce qui leur est arrivé. Donc ils partiront pour la Grande-Bretagne qui voudra bien les accueillir. C'est quand même très gentil de sa part, parce qu'il y a eu entre-temps quelques tensions, même si la reine Victoria est venue en France. Et là-bas, elle continuera. Bon, Louis-Philippe va disparaître en 1850. Elle va perdre une de ses filles qui est devenue reine des Belges. Elle a perdu Marie, qui est une petite jeune fille terriblement douée.
Elle a perdu, bien sûr, le duc d'Orléans.
Le duc d'Orléans qui a eu un abominable accident et qui est mort en chutant de sa voiture sur des pavés et qui s'est cassé le crâne, hein, et qu'on n'a pas pu soigner et faire revenir, et qui était un garçon assez remarquable et plutôt libéral, qui aurait peut-être changé un petit peu le destin du pouvoir. Et puis, bon, elle se retrouve comme une dame en exil, menant toujours une vie de famille et mariant ses petits-enfants.
Merci infiniment, Florence Vidal, pour cette évocation de la reine Marie-Amélie. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, votre biographie de Marie-Amélie, paru aux éditions Pygmalion dans la collection Histoire des reines de France. Au revoir à tous.